L'Évangile de Luc, chapitre 2. Versets 21 à 40. Luc, chapitre 2, versets 21 à 40. Au nom de Jésus. Une semaine après, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant dans la ville de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur ». Ils offrirent aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était bon. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, ta promesse est réalisée. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et donnera de la gloire à Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les hommes s'opposeront, et il fera ainsi apparaître en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, femme, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Et elle était très âgée et elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu était avec lui. Amen. En préparant cette prédication, je me suis posé la question, comment les activistes défenseurs farouches des droits de la femme vont accueillir, vont lire ce texte que nous avons ce matin? Je crains que cela ne fera pas trop plaisir à ceux qui sont contre à l'idée, bien sûr, des mères porteuses. Le GPA, gestation pour autrui, et compagnie. Voilà, c'est le sujet d'actualité aujourd'hui. Mais ce récit, ainsi que les deux annonces faites par Siméon et Anne, rappellent à Marie que ce bébé qu'elle avait enfanté ne lui appartient pas. Elle n'a aucune autorité sur lui. Et cela dès sa conception même, pas après sa naissance, dès sa conception. Pour dire les choses, elle était juste le ventre qui le portait. Soyons clairs, loin de moi de négliger la place de Marie dans l'histoire du salut, ce n'est pas le but. Mais le récit que nous avons ce matin est assez clair sur ce sujet. Personnellement, je considère ce texte un texte de tragédie. Vous allez me dire pourquoi dites-vous cela ? Tout d'abord, les parents adoptifs, je dis bien adoptifs, mais pas les parents de Jésus, Joseph et Marie, viennent au temple quand Jésus eut 8 jours seulement. Parce que dans la loi juive, il faut emmener le premier-né, le garçon, pour le circoncire au temple. Cette circoncision signifie, dans la loi juive, je reprends les paroles d'un rabbin, que cet enfant ne leur appartient pas, mais il appartient à sa propre histoire. Au moment où l'enfant est circoncis, l'enfant entre dans l'alliance abrahamique et on l'inscrit dans la tradition juive, c'est-à-dire il s'inscrit dans le passé, mais en même temps il y a une image de relais, de transmission. Il reprend cette tradition qu'il a reçue d'Abraham. Et cela est montré avec la présence des deux personnages, ici Siméon et Anne, qui prend l'enfant des bras de Marie, comme si les parents disent « Voilà, reprenez l'enfant qui ne nous appartient pas. » Et Siméon a pris l'enfant et l'a remis dans le destin messianique qu'il attendait. Ce moment est un moment, je trouve, très dur, très fort en symbole, parce que c'était déjà à l'instant où on a arraché l'enfant des mains de sa mère, de leurs parents, pour sa destinée messianique, qui est le kénose, se vider. Le kénose veut dire se vider. L'enfant va être arraché de force des bras de Marie pour sa destinée fatale, la mort sur la croix. J'ai dit que c'est une tragédie que nous assistons ici, même si c'est un moment joyeux pour la loi juive. Car normalement, pour un moment très important pareil, ce qu'attendrait peut-être tout parent juif, normaux, c'est une bénédiction de réussite pour l'enfant, de prospérité pour son enfant, qui rentre dans l'alliance, comme nous emmenons nos enfants au baptême ou autre chose. Mais ce n'était pas le cas. Or, pour Jésus, certes, ils reconnaissent la divinité de l'enfant qui porte toute l'espérance juive, mais cette espérance tant attendue pour ces deux personnes, vous imaginez, ils ont vécu rien que pour ça. Siméon et Anne avaient attendu jusqu'à quand va se réaliser la promesse. Mais cette espérance tant attendue pour ces deux personnes, signalons-le, a dû attendre toute leur vie pour voir enfin de leurs propres yeux ce qu'Israël attendait. Mais au moment, même eux ne savaient pas, au moment où l'enfant était dans les bras de Siméon, l'Esprit de Dieu l'a fait parler quelque chose de terrible. Verset 34, « Celui-ci est pour la chute, le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. » Et la suite, « Et toi-même, Marie, une épée te transpercera le cœur. » Qui oserait dire ça à une maman le jour du baptême de son enfant, par exemple? C'est dur, parce que la circoncision, c'était comme le baptême aujourd'hui. Mais voilà, c'était la parole de Dieu. Imaginez le cœur de Marie qui entend ces paroles. Pour une maman, c'est dur à entendre. Mais il a fallu la préparer dès le 8e jour de la naissance de l'enfant, ce qui l'attend plus tard à Golgotha. Et regardez la scène, l'enfant qui était dans les bras de Siméon et son fils à la croix dans les bras de son père, qui meurt. Et je suis sûr et certain, même si on ne l'a pas dit dans le texte, que lorsque Jésus était à la croix, et agoniser, cette phrase aurait vraiment refait surface dans son cœur. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au verset 51, même si ce verset 51 ne fait pas partie de notre lecture aujourd'hui, voici ce qu'il est dit. Puis il descendit avec eux à Nazareth, Jésus, et il leur était soumis, et sa mère retenait toutes ces choses. Donc elle a enregistré, et le jour J, le Christ a été crucifié, toutes ces paroles revenaient à la surface. Cet enfant dont elle était fière n'aura pas une vie paisible et ne roulera pas sur du goudron nylon, comme on dit. Cet enfant aura une destinée exceptionnelle. Retenez bien ceci au verset 21. C'est au moment de ce rituel de la circoncision que l'enfant reçoit officiellement le nom que les parents lui ont donné. Et c'est quoi ce nom ? Jésus. Ça veut dire quoi, Jésus ? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De ce fait, la déclaration faite par Siméon et Anne annonce la couleur de la feuille de route de cet enfant. C'est un peu une feuille de route. Voilà ce qu'il attend. Voici son programme, cet enfant qui est né. Il ne vivra pas pour lui. Il n'aura pas de vie pour lui. Sa destinée ou sa vie est pour les autres. Cet enfant a la même vie que ses parents adoptifs. Une vie qui ne l'appartient pas, mais qui appartient au Père. Ou plus exactement, à la disposition totale du Père pour sauver toute l'humanité. Les parents aussi, rappelez-vous, dès le début, ils étaient en quelque sorte que des dépositaires du salut. Et Joseph, rappelez-vous Joseph, on ne parle pas trop de Joseph dans la Bible, mais cet homme-là, on parle de l'homme silencieux de l'Évangile. Pour un homme, les hommes savent bien ce que ça veut dire. Il a dû avaler l'inacceptable, accepter un enfant qui n'est pas le sien. Vous imaginez ? C'est facile de le lire un jour de Noël, ah, c'est la fête. Mettez-vous à la place de Joseph, c'est dur, hein ? Et après, on te dit, c'est le Fils du Saint-Esprit. Oh, c'est trop facile. Être le père d'un enfant qui n'est pas le sien. Même chose pour Marie. Marie aussi, à son tour, elle a accepté le déshonneur et le risque de se faire lapider en acceptant d'avoir un enfant hors mariage, avant le mariage. Donc, cette famille-là est une famille, dès le début, n'a pas vécu les choses normales comme les autres familles. Mais c'est une famille qui a rendu le monde entier heureux. Moi, toi. Grâce à cette famille qui a accepté l'inacceptable, ils ont rendu la joie à toute l'humanité. Et que voilà maintenant, après tous ces efforts et ces sacrifices, elle doit déjà se détacher petit à petit de cet enfant qui est devenu, qui n'est plus le sien. Un déchirement atroce, une douleur insupportable. Une épée transpercera ton cœur. Voilà, nous n'allons pas juste s'apituer sur le sort de Marie et Joseph, mais cette histoire nous touche aussi à plein fouet. Rappelons-nous de ce que Jésus avait dit lorsque la foule et ses disciples lui ont dit un jour, « Ah, ta mère et tes frères sont là pour toi. » Qu'est-ce que Jésus avait répondu dans Marc, chapitre 3, verset 35 ? « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Quelque part, nous avons, nous aussi, à notre tour, cette place de frère et de sœur de Jésus, si tu veux être le frère de Jésus. Parce que tu dis, « Oh, Seigneur, mon frère !» Celui qui est le frère de Jésus doit céder aussi sa vie pour l'autre. Croire en Jésus, c'est de l'accepter comme étant notre seul et unique sauveur. Ça, tout le monde en veut. Tu es mon sauveur. Mais la deuxième partie, peu de gens l'acceptent. Et maître, Jésus est notre sauveur ? Oui, maître, de temps en temps, si ça m'arrange, si ça peut me rendre utile. Mais celui qui prie, « Oh Seigneur !» Cette personne-là devait être conscient de l'impact de sa parole. Réfléchis deux fois avant de dire « Seigneur !» Parce que si tu dis cela, ta vie ne t'appartient plus. Tu l'as mis en disposition dans les mains du Père, comme le Jésus, dès son huitième jour. Et donc, comme lui et comme Joseph et Marie, tu ne choisis plus ton chemin et tu vivras pour les autres. Voilà la croix. Voilà la croix. Ce n'est pas nos maladies, la croix. Ce n'est pas le chômage, la croix. Ce n'est pas les épreuves de la vie. La croix, c'est que dorénavant, ta vie ne t'appartient plus et tu vivras pour les autres. Veux-tu être mon disciple? Et je pense que c'est là que ça coince. Parce que ce qu'on nous a inculqué depuis notre petit âge, pense à toi d'abord, ensuite aux autres, n'est-ce pas? Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. C'est une phrase difficile à entendre pour les oreilles de notre époque où on ne prône que pour la liberté individuelle. À entendre tout cela, nous avons l'impression que suivre le Christ dans la bouche de plusieurs est synonyme de souffrance, de sacrifice. On ne vit plus, etc. Est-ce vrai? Je me rappelle bien, lors d'un entretien que j'avais avec quelqu'un, quand j'étais encore pasteur au pays, souvent les gens disent « J'aimerais bien suivre le Seigneur, mais c'est trop dur de refuser soi-même. » Je dis « Oui, hélas, c'est vrai. » La plupart d'entre nous vont certainement avoir en tête cette parole de Jésus qui dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. » Et je mets ici une parenthèse. Je me suis dit « Seigneur, je ne vais pas prêcher ça dimanche. Les gens ne vont plus revenir. » Je devrais prêcher autre chose qui va booster les gens. Tu dois le dire. Ce qui poserait un problème à beaucoup de personnes dans cette phrase de Jésus, c'est le fait de porter sa croix, pas chaque semaine, hein, tous les jours. Il faut d'abord situer cette phrase, bien sûr, pour ne pas avoir une fausse interprétation de la croix. La définition se situe juste dans la phrase précédente où il dit « se renier soi-même ». Voilà la croix. Donc pour bien comprendre ce renoncement à soi-même, il faut alors avoir en tête la kénose du Christ, c'est-à-dire là où il s'est vidé dans Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8, il est dit « Il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Et pour comprendre encore un peu plus, dans la bouche de Jean-Baptiste, lui, il a trouvé une formule, on va dire un peu mécanique, qui dit « Faut que lui croisse et que moi, je diminue. » Et si vous avez remarqué, nous sommes toujours dans la continuité de ce qui a été dit dimanche dernier. Nous avons parlé de l'attitude qu'il faut adopter, ne pas prendre toute la place afin de ne pas cacher la croix ou le Christ. Et aujourd'hui, dans le prolongement de cette ligne que nous avons suivie, se vider pour permettre aux autres de connaître un peu plus le Christ et d'en bénéficier afin qu'ils atteignent aussi eux un jour à leur tour le niveau spirituel que nous avons reçu. Pour terminer ma méditation, l'évolution spirituelle d'une personne ne tombe pas du ciel comme ça. Il ne suffit pas de dire « j'ai la foi ». C'est nécessaire, bien sûr, pour le salut. Mais pour suivre le Christ, il nous appelle à le suivre dans sa façon de faire, se vider pour élever le faible. Amen.